Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Quelle suite politique à la crise ouverte en Autriche après un nouveau scandale qui salit l'extrême droite et affaiblit la coalition qu'elle forme avec les conservateurs? Correspondance d'Isorias à Vienne. Boeing reconnaît pour la première fois des défauts liés au 737 Max, précision de Grégory Phillips. Les trois prix France Culture Cinéma remis en cette mi-journée à Cannes, Sandrine Trainer, directrice de la chaîne, dévoile dans cette édition les noms des lauréats. Et puis la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, s'intéresse ce dimanche à la censure chinoise appliquée entre autres aux réseaux sociaux s'agissant de toute information susceptible d'évoquer le massacre de Tiananmen. C'est l'union des droites telle que glorifiée il y a moins de 15 jours encore par le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui vient de sombrer en Autriche avec la démission hier du vice-chancelier Heinz Christian Strache, piégé par une vidéo qui le voit proposer à la nièce d'un oligarque russe des marchés publics en l'échange d'un soutien financier au parti d'extrême droite FPE. Les liens entre l'extrême droite autrichienne et le Kremlin ne datent pas d'hier, tout comme les turbulences au sein de la coalition droite-extrême droite. Le chancelier Sébastien Kurz a convoqué dès hier des élections anticipées, non sans signifier son exaspération, histoire de ne pas insulter l'avenir. Isorias est à Vienne.
Heinz Christian Strache était à la tête du FPE depuis 2005 et sous son règne, le parti a clairement essayé de lisser son image avec un but, participer de nouveau à un gouvernement de coalition. But atteint en 2017 lorsque les conservateurs choisissent le FPE comme partenaire. S'ensuit une première année idyllique, à en croire la coalition qui surjoue la bonne entente. Mais ces derniers mois, plusieurs scandales touchant le FPE ont poussé Sébastien Kurz à prendre publiquement ses distances, notamment lorsqu'il est révélé fin mars que le mouvement identitaire autrichien est visé par une enquête à cause d'un don reçu de l'auteur des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Tous les regards se tournent alors vers le FPE, pointé du doigt pour ses liens avec la mouvance identitaire. Sébastien Kurz doit demander officiellement des explications à son partenaire. Idem, il y a quelques semaines, lorsqu'on découvre dans la presse un poème écrit par un élu du FPE dans lequel il compare les migrants à des rats. Sébastien Kurz condamne, sans remettre en cause toutefois la coalition. Mais cette vidéo est le scandale de trop, c'est ce qu'a dit en substance hier le chancelier conservateur. Sébastien Kurz espère sortir renforcé de cette affaire. Ce sera sans doute beaucoup plus difficile pour le FPE qui a enfin montré son vrai visage selon l'opposition.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Israël aurait tiré 3 missiles hier soir sur une position de l'armée du régime dans la province de Kouneitra dans le sud du pays. Deuxième attaque de ce type en 2 jours. Une première pour Boeing, toujours en communication de crise, un peu plus de 2 mois après la catastrophe du vol d'Ethiopian Airlines, 157 morts. La firme américaine admet un défaut de conception concernant un équipement du 737 Max et non des moindres. Washington, Grégory Phillips.
Boeing a conçu un simulateur de vol afin de permettre aux pilotes de se former au maniement de cet avion, le 737 Max, et surtout leur donner la possibilité d'appréhender un nouvel outil baptisé MCAS et qui est censé parer les décrochages de l'appareil. Seulement, le constructeur américain reconnaît aujourd'hui qu'il y avait des défauts dans ce logiciel et que, à l'entraînement, sur les simulateurs, les pilotes ne pouvaient pas appréhender toutes les spécificités de l'appareil et tester toutes les conditions de vol. Boeing affirme donc avoir corrigé ce défaut de conception, mais la question de la formation des pilotes reste centrale et elle sera sans aucun doute posée la semaine prochaine quand les régulateurs aériens du monde entier se retrouveront à Fort Worth, au Texas.
Le parquet de La Roche-sur-Yon ouvre une enquête après le saccage hier d'un stand du centre LGBT de Vendée. La scène a été filmée, saccage commis par une quinzaine de personnes dont certaines portaient des vêtements à l'effigie de la Manif pour tous. SOS Homophobie condamne, je cite, une violence homophobe intolérable. Les parents de Vincent Lambert appellent à un rassemblement tout à l'heure à 15h à Reims devant l'hôpital où leur fils est sous traitement depuis un accident de voiture survenu en 2008. En 2015, l'équipe médicale avait pris la décision d'arrêter d'administrer des soins à ce patient en état végétatif avant d'y renoncer. Opposés à l'arrêt des soins, les parents de Vincent Lambert avaient alors déposé quantité de recours recours tous rejetés. Les autorités françaises ont alors légiféré. Ce sera la loi Leonetti qui tiendra compte d'ailleurs du cas de Vincent Lambert. Cette fois, le gouvernement a pris la décision d'engager dès demain un processus de sédation profonde et continue entre les médecins et la justice. Qui doit avoir le dernier mot? Élément de réponse avec Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'université de Paris-Sud, Paris-Saclay.
Le dernier mot, c'est la conscience. Et je pense que s'il y avait eu vraiment une forme de respect, d'essence vis-à-vis de M. Vincent Lambert, il ne fallait pas qu'il reste au CHU de Reims, il fallait qu'il aille dans une structure dédiée. Il aurait dû, depuis des années, être le respect de ses droits. Les droits fondamentaux, c'est d'abord le droit de cette personne. Alors moi, j'arrive aussi à comprendre qu'on puisse considérer qu'une personne en état végétatif persistant, c'est pas une vie telle qu'on aimerait la vivre. Mais regardez la conséquence que ça va avoir. Dans quelques mois, j'en suis certain, on va avoir une loi qui évoluera vers une dépénalisation de l'euthanasie, puisque la dernière loi sur la fin de vie, on voit qu'elle est mise en échec. C'est une dépénalisation de fait. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, il faut dire que c'est... On arrêtera l'alimentation, on arrêtera l'hydratation, et on donnera à M. Vincent Lambert du traitement pour qu'il dorme, c'est l'endormissement, alors qu'il est déjà à état végétatif persistant, avec l'intention qu'il ne se réveille pas.
L'on apprenait en fin de matinée que les parents de Vincent Lambert vont déposer de nouveaux recours dès demain, sans plus de précision pour l'instant. Il est temps cette fois, comme promis, de se rendre à Cannes pour prendre connaissance du palmarès maison, celui des prix France Culture Cinéma 2019. La directrice de la chaîne est en ligne avec nous. Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Sandrine, je vous laisse ce soir, bien sûr, de dévoiler les trois distinctions de cette édition.
Merci beaucoup Mathieu. Vous entendez peut-être un peu de bruit derrière ma voix. Oui. Il y a eu sous ce ciel un peu plombé, mais sous un soleil intérieur chaleureux, la remise des prix à l'instant devant plus d'une centaine, 150 étudiants venus exprès pour l'occasion. Alors un premier prix qui est le prix consécration pour l'ensemble d'une œuvre. Cette année, il revient à Margaret Ménégos qui est juste à côté de moi, qui est une immense productrice. Nous n'avions jamais remis ce prix à une productrice, et c'est important aussi de donner à voir et à entendre d'autres métiers qui sont les métiers qui sont derrière les marches et le tapis rouge, n'est-ce pas Margaret Ménégos?
Oui, derrière et en même temps en plein dedans, mais discret, modeste.
Ouais. Comment vous définissez ce métier de productrice quand par exemple les jeunes qui sont là autour de nous vous disent mais c'est quoi être productrice de cinéma?
C'est très large comme champ d'intervention. Ça va du financement du film à la conception du tournage, financement du tournage, le choix des acteurs, tous les contrats, le montage, le mixage. Enfin, pendant tout le film, on est présent.
Voilà, merci beaucoup Margaret Ménégos. On vous entendra sur la longueur demain dans la grande table d'Olivier Gesbert et très rapidement dans plan large d'Antoine Guillot. Et puis un prix remis par les étudiants, et je suis avec un de ces étudiants, Marius Jouani. Alors vous allez nous dire qui vous avez nommé, pourquoi vous étiez plus de 800 étudiants à participer cette année.
Alors parmi les 5 films qui ont été nommés, nous avons choisi Sunset de Laszlo Nemes. Et ce film nous plonge, après l'enfer de la Shoah que traitait Laszlo Nemes dans Le Fils de Saul, dans le Budapest de 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale. On y suit Iris Slater, qui travaille dans une chapellerie. Et du coup, il le traite avec la même mise en scène que dans Le Fils de Saul. Une mise en scène qui questionne plutôt qu'elle explicite. Et c'est ce qui fait sa force, puisqu'elle traite finalement de l'irrationnel. L'irrationalité du personnage, tout d'abord, puisqu'on... comprend pas ses motivations, elle reste mystérieuse tout au long du film. Puis l'irrationalité d'une situation historique, Budapest à la veille de la Première Guerre mondiale, et ce personnage vient gratter le vernis de cette société aux apparences sophistiquées, symbolisées par la chapellerie, et ces apparences en fait dissimulent une violence effroyable, une violence qu'elle rencontre en rencontrant aussi bien les prolétaires révoltés de cette société que la noblesse décadente. Et finalement, le personnage fusionne avec son époque par la mise en scène, et ça traduit un malaise à la fois civilisationnel et intime. Intime parce qu'il provoque un sentiment d'absurde inoubliable. Et voilà, pour toutes ces raisons, voilà pourquoi nous avons choisi ce film.
Bon, vous pouvez entendre, Mathieu, que Marius et Amandine, qui ont tous les deux remis ce prix, sont des critiques extrêmement attentives des films. Mentionnons, enfin, vous savez d'ailleurs, je le redis, Laszlo Nemes avait été révélé par un grand film qui est le fils de Saul. Et puis pour terminer, Mathieu, le prix remis par un jury d'étudiants international que nous avons remis avec Isabelle Giordano, déléguée générale d'UniFrance, et qui revient à Jean-Paul Sivérac pour le film Mes Provinciales. Voilà, beaucoup de cinéma, beaucoup de passion et merci à vous.
Merci à vous, Sandrine Trainer. Et oui, les mots de la passion, la passion des mots
merci
aussi.
Beaucoup.
Merci à vous ainsi qu'aux équipes techniques à l'œuvre sur la croisette. Il est 12h40, l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, tend la main à son ennemi d'hier. Il demande au chef rebelle Riek Machar de rentrer à Juba pour devenir un partenaire pour la paix. Le pape François a récemment appelé les deux belligérants à se réconcilier. À peine la République du Sud-Soudan créée, le pays a sombré dans une guerre civile qui a fait 380 000 morts depuis 2013. Le poste de Premier ministre a été supprimé au Sénégal. C'est une des dispositions de la réforme surprise annoncé par le président Macky Sall lorsqu'il a entamé son second mandat, censé fluidifier le fonctionnement de l'État. Cette réforme renforce le caractère présidentiel du régime. L'opposition reste inquiète et c'est en sa direction que Macky Sall veut relancer le 28 mai un dialogue national. Il s'agira notamment de discuter de la création d'un organe indépendant pour organiser les élections. Ses détracteurs ne décolèrent pas. Pas question pour eux d'accepter un report du procès de Cristina Kirchner. L'ancienne présidente argentine doit comparaître mardi pour des accusations de corruption. Or, une semaine avant le début de ce procès très attendu dans le pays, la Cour suprême a causé la surprise en demandant au tribunal de lui envoyer le dossier judiciaire. Cette démarche, susceptible de retarder le procès, a été accueillie jeudi par des concerts de casseroles jusqu'au quartier où réside l'ancienne présidente. Wikipédia est désormais totalement inaccessible en Chine. La version en mandarin de l'encyclopédie en ligne était bloquée depuis 3 ans déjà. À présent, les versions en anglais, en français et en allemand sont elles aussi censurées depuis mercredi. Un blocage qui intervient à l'approche d'un anniversaire sensible pour Pékin. À Shanghai, Angélique Forget.
C'était il y a presque 30 ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, sur la place Tiananmen à Pékin, l'armée ouvre le feu sur une foule de manifestants venus réclamer des réformes démocratiques. Un événement tabou en Chine, dans la presse, à la télévision, dans les livres d'histoire, pas une occurrence. La Chine fait table rase du passé, comme si le printemps de Pékin n'avait pas eu lieu. À l'approche du 30e anniversaire de cette nuit d'horreur, le Parti communiste chinois redouble de prudence et a décidé donc de renforcer son contrôle sur Internet. En Chine, Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, entre autres, sont déjà censurés. Sur les versions anglaises, françaises et allemandes de Wikipédia, plus de 800 pages étaient même déjà bloquées. Voici que la censure s'élargit. L'objectif, ne rien laisser passer, pas un texte, pas une image. Depuis 2 ans, sur le réseau social chinois WeChat, qui permet notamment de transférer de l'argent à ses proches, il est devenu impossible d'effectuer des virements de certaines sommes. À l'approche du 4 juin, les montants contenant les chiffres 4 ou 6 associés au nombre 89 sont automatiquement refusés.
Le patriarche Joseph Absi, chef de l'église grecque-catholique Melkite établie en Syrie et au Liban, était il y a quelques jours à Paris où il a été reçu par le président Macron. Il s'est également entretenu avec des responsables au Quai d'Orsay et au Sénat. Le patriarche d'Antioche vit à Damas. Il est surtout venu plaider la levée des sanctions imposées par les Occidentaux à la Syrie. Sanctions qui frappent d'abord et avant tout la population, explique-t-il à Christian Chesneau.
Il y a une grande souffrance à cause de ces sanctions, voilà, sur le carburant, sur certaines matières médicales, etc.
Est-ce que le président Macron s'est engagé à faire un geste ?
Il nous a montré un grand intérêt et une grande attention. Il a promis de faire ce qu'il est en son pouvoir de faire pour aider à alléger les souffrances de notre peuple.
Le grand défi de la Syrie maintenant, parce que la guerre est presque terminée, c'est la réconciliation. Est-ce qu'on peut réconcilier un peuple quand vous avez des millions de gens à l'extérieur ? Comment voyez-vous la situation de cette réconciliation des gens qui se sont fait la guerre ?
Voyez, nous œuvrons pour la réconciliation. Maintenant, comment ça va se faire ? Qui sait ? On va aller pas à pas, petit à petit. au quotidien, c'est-à-dire nous prêchons la paix, nous prêchons la justice, nous essayons, nous faisons de tout notre possible pour que les gens se rapprochent les uns des autres, qu'on regarde vers le futur, quoi. Il y a des chrétiens qui ont quitté, vous voyez. C'est normal, comme tout le monde, parce que la situation n'était pas bonne. D'abord, il y avait la guerre, et maintenant, il y a les sanctions. Et actuellement, les gens ont tendance à quitter plus que dans le passé, parce que les moyens de vivre deviennent de plus en plus serrés. Parce que le peuple souffre maintenant, actuellement, c'est le peuple qui manque de carburant, qui manque de médicaments.
À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain. Amoureux de la Seine, éperdument nomade, le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez est décédé. Il avait 61 ans. La météo de l'après-midi, en quelques mots, ciel instable pour tout le monde avec des orages localement. Amélioration en fin de journée, notamment sur le pourtour méditerranéen. Cette édition était préparée avec Benjamin Ducy, à la technique Jordan Fentes.